Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est sûr, je retire aussi beaucoup de plaisir au fait de progresser et au fait d'optimiser ma performance, d'aller chercher tous les petits leviers qui peuvent me faire progresser. Et ça, curieux de voir comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, quoi. Comment c'est organisé, est-ce qu'on parle un peu de dopage, à quoi ça ressemble. J'ai investi cet hiver dans un bon entraîneur, mais c'est, je pense, pas le meilleur investissement que j'ai pu faire de ma vie, je l'ai pas beaucoup utilisé.
Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Allez, nouveau podcast aujourd'hui, je suis avec Mathieu Lambert. Mathieu, je suis très content de te recevoir. On va parler d'un sujet dont on parle peu et pourtant c'est un sport que je pratique depuis peu. Si vraiment on m'avait dit que je ferais ce sport un jour, j'aurais dit certainement pas. Et pourtant, je commence à y prendre du plaisir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Mathieu ?
Ça va très bien, merci. Merci François de me recevoir sur ton podcast.
Eh bien, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Alors, pour me présenter, je vais déjà parler de ce fameux sport. Tu ne l'as pas mentionné, mais moi, je suis un passionné de cyclisme, passionné de l'optimisation de la performance, comment optimiser son potentiel. Voilà, donc c'est deux sujets qui, on va dire, régissent ma vie. Tous mes projets vont tourner autour du cyclisme et de l'optimisation de la performance. Encore actuellement, je suis encore étudiant dans ma dernière année en troisième année de licence TAPS à Grenoble. Donc, je vis à Grenoble en ce moment. Je suis aussi entraîneur. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Entraîner des athlètes, l'échange avec les athlètes, réfléchir à leurs objectifs, leurs problématiques. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai une dizaine d'athlètes de haut niveau principalement, pas mal de coureurs étrangers. Donc c'est passionnant aussi découvrir d'autres cultures, et puis c'est des coureurs qui sont vraiment, je trouve, très très impliqués, très très engagés dans leur entraînement et dans leur progression. C'est des coureurs qui sont au plus haut niveau amateur français, donc ils font que du vélo. Donc déjà aussi c'est passionnant parce que il y a une liberté assez totale, quoi. Il n'y a pas trop de contraintes. Le vélo, c'est la priorité. Donc, c'est super intéressant. C'est des coureurs qui veulent passer pro. Donc, il y a vraiment un engagement qui est énorme de leur part. Donc, ça, j'adore. Je suis aussi un petit peu, on va dire, entrepreneur avec Cyclisme Performance que j'ai monté depuis 2 ans maintenant. À la base, c'était un podcast. J'ai fait pendant 1 an, je faisais un podcast une fois par semaine avec un invité. Et puis, depuis 1 an, je me suis associé avec 2 autres entraîneurs qui étaient un petit peu plus aguerris, on va dire, qui étaient déjà un petit peu plus installés dans le milieu du cyclisme pour développer Cyclisme Performance, avec l'idée de proposer, continuer à partager la connaissance. Et l'idée derrière, c'était de proposer des formations en ligne. Et pour partager au plus grand nombre les dernières avancées scientifiques et puis les méthodes pour progresser. Et puis ça va du testing physiologique, donc du lactate, je parle de la musculation, de la nutrition, tous les sujets qui encadrent la performance. Donc on développe tous ces sujets là sur Cyclisme Performance à 3. On fait aussi des articles de blog et puis on continue toujours les podcasts. Et puis, enfin, je suis aussi coureur, cycliste. Ça, c'est pareil, ça, c'est, bon, c'est plutôt pour le plaisir. Mais je cours quand même au plus haut niveau amateur français. Donc, c'est du plaisir, mais ça demande quand même de l'entraînement et beaucoup de temps. Parce que, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais le cyclisme, c'est un sport qui demande beaucoup de temps. Et voilà, tout de suite, on peut faire des volumes assez impressionnants. Au moins 15 heures d'entraînement par semaine, c'est on va dire, assez classique dans le cyclisme. Donc voilà, le programme est bien chargé de mon côté.
Tu vois, depuis peu, je me suis mis à prendre des notes quand les invités se présentent ou me disent des choses comme ça et que j'ai pas envie d'oublier des sujets, parce que dans les présentations des invités sur le podcast, il y a toujours plein de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir et j'ai jamais envie d'oublier. Donc pendant que tu parlais, j'ai pris pas mal de notes et tu as commencé par dire que tu étais un passionné de l'optimisation de la performance et de son potentiel. Est-ce que ça veut dire que pour toi, toute personne peut arriver à un niveau, à un haut niveau ?
Après, ça dépend comment on définit le haut niveau. Déjà, il y a par rapport à soi et puis par rapport aux autres. Moi, avec Cyclisme Performance, l'idée, c'était de vraiment permettre au plus grand nombre, à tout le monde, en fait, pour moi, même l'athlète amateur ou l'athlète qui voilà, a commencé le vélo il y a 2-3 ans, il a le droit d'avoir accès aux meilleures méthodes d'entraînement, aux meilleures méthodes d'optimisation de la performance. Moi, je me rends compte qu'en fait, ça passionne beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont envie de progresser et qui n'ont pas forcément la volonté d'atteindre le haut niveau tel qu'on pourrait le définir par la performance classique au niveau fédéral, avec niveau élite, niveau professionnel. Mais voilà, c'est des athlètes qui vont se fixer des objectifs, peut-être 2-3 par an, des cyclos sportifs. En cyclisme, ça fonctionne bien. Je dirais peut-être même que ça a le vent en poupe. Clairement, il y a un gros engouement autour de tout ça. Et donc voilà, c'est pas forcément d'atteindre le haut niveau, au niveau fédéral, au niveau compétition, mais vraiment de progresser. Et ça, je pense que oui, clairement, tout le monde peut optimiser son potentiel et il y a plein de leviers différents qu'on peut actionner pour progresser.
Qu'est-ce qui t'a passionné, toi, dans le vélo ? Pourquoi avoir choisi ce sport ? Est-ce que c'est un sport que tu as pratiqué depuis petit, peut-être avec tes parents ? Ou qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le vélo ?
Ouais, c'est ça. C'est souvent assez familial, hein, le cyclisme. Alors, je suis pas beaucoup connu d'autres sports, mais c'est vrai que dans le vélo, souvent, c'est souvent des histoires de famille. Il y a quelques exceptions, hein, certains qui vont commencer le vélo alors qu'il n'y avait pas de cycliste dans la famille. Mais voilà, moi, ce n'était pas mon cas. Ça venait plutôt du côté de mon grand-père qui est toujours d'ailleurs un grand passionné de cyclisme et de vélo, et même surtout de la pratique du vélo en elle-même plutôt que la compétition. Et voilà, ça m'a transmis l'envie de faire du vélo, et c'est comme ça que je suis venu au vélo et que j'ai tout de suite... Ça a tout de suite été un sport qui m'a plu, qui convient bien, je pense, à ma physiologie, enfin, au type d'athlète que je suis, plutôt endurant qu'explosif. Donc, et puis même le côté psychologique aussi. Moi, j'aime bien les sports plutôt individuels comme ça, plutôt que les sports collectifs. Je pense que voilà, le vélo, c'est un sport qui me convient bien. Donc, voilà.
Donc, tu as passé tous tes mois de juillet à regarder le Tour de France avec ta famille, si je comprends bien, quoi.
Ouais, un petit peu, même si au final, le Tour de France, je ne l'ai pas tellement regardé, parce que le mois de juillet, ça reste toujours des... Enfin, vu que je suis compétiteur aussi en même temps, en fait, je suis toujours parti, quoi. Donc, des fois, finalement, le Tour de France, je ne l'ai pas trop suivi, à part un été, peut-être 2019, où j'étais blessé. Je crois que je ne touchais pas au vélo du mois de juillet, donc là, j'ai pu suivre le Tour de France. Mais c'est peut-être la seule année, je me souviens, avoir vraiment suivi le Tour de France, quoi.
En tout cas, moi, c'est des souvenirs que j'ai. Je vois mon père. Toi, je m'appelle Ino, hein, donc il y a quand même un truc, ouais, hein, dans la famille.
J'avais remarqué.
et je me souviens de mon père qui regardait ça avec passion. Personnellement, je prends pas le temps de le faire, même si, je sais pas comment on fait pour rester autant de temps devant la télé. Ça correspond pas trop, mais j'adore en tout cas regarder comme ça les petits résumés de la journée quand même. Tu disais qu'il y a différentes cultures dans le vélo. Ça se traduit comment concrètement entre les différents pays ?
Ah, c'est une bonne question. Clairement, il y a, on va dire, la culture anglo-saxonne et la culture des pays, on va dire, fondateurs du vélo. J'ai pas envie de dire ça, mais je pense aux Belges, aux Français, aux Italiens, aux Espagnols, quoi, au final, ce qui est... Ils représentent quand même beaucoup, beaucoup d'athlètes dans le peloton. Et puis, y a des, voilà, les athlètes anglais, notamment, australiens, les américains. Voilà, eux ont une culture très différente. Et vraiment, au niveau de la performance, ils sont assez intéressants parce que, comme je le disais, le vélo, en tout cas en France, ça reste un sport où voilà, c'est les parents qui le pratiquaient, les grands-parents qui le pratiquaient, les directeurs sportifs, les entraîneurs pendant longtemps. Mais en fait, c'était juste les anciens coureurs. Dès qu'ils avaient fini leur carrière, ils passaient entraîneur ou ils passent directeur sportif. C'est un petit peu le cas encore maintenant, mais ça change un peu avec de plus en plus de réglementations. Il faut certains diplômes, il faut avoir une licence STAPS, il faut voilà, certaines choses qui font que ça change un petit peu. Mais du coup, voilà, en France, la tendance, c'est que on répète ce qui se faisait depuis des années et sans forcément évoluer. Et puis on reste, c'est une famille, le vélo. On va dire qu'on reste entre nous et on va pas forcément voir ailleurs, voir ce qui se fait dans d'autres sports et puis chercher à progresser. Alors que les Anglais, ils ont une vision assez différente. C'est que eux, finalement, c'est peut-être un sport bien plus récent. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, ils vont être bien plus ouverts, bien plus avoir une culture de la performance qui est très différente de la nôtre. On va utiliser la science, on va utiliser creuser tout en fait tous les leviers de la performance qui en France en tout cas ont été jusqu'à maintenant un peu délaissés. Alors ça, c'est comme je le dis, c'est en train de changer, tout ça progresse. Mais voilà, l'aérodynamisme, l'entraînement, il y a plein de méthodes d'entraînement qui arrivent et qui ont été apportées par les Américains ou les Anglais. Donc, c'est des cultures différentes. Et puis, je parlais de ça aussi par rapport aux coureurs que j'entraîne. Moi, je trouve que les coureurs étrangers, ils sont vachement, vachement motivés parce que finalement, ils quittent tout, quoi. J'ai notamment un coureur néo-zélandais. Quand il vient en France, c'est un sacré investissement et c'est clairement pour passer pro, quoi. Donc c'est super intéressant de travailler avec eux comparé peut-être à des coureurs français qui peuvent être moins motivés, qu'on passe cette fin en eux, on va dire. Et c'est ça qui fait la différence entre ces coureurs, quoi.
Alors c'est vrai que, tu vois, comme je te le disais en intro, le cyclisme, c'est un sport. Franchement, je pensais pas que j'allais faire ce sport-là un jour quand je passais sur la route et que, enfin, quand je prenais ma voiture et puis que je doublais des cyclistes, je me disais, mais c'est quoi ce plaisir qu'ils ont à être sur la route, là, à se faire passer son temps, à se faire doubler par des bagnoles. C'est dangereux, en plus. Y a quand même beaucoup d'accidents. C'est quoi ton plaisir, tu vois, je pourrais te partager le mien, mais le tien, c'est quoi ton plaisir dans ce sport? Pourquoi il t'apporte plaisir et satisfaction et finalement bonheur, hein, parce que c'est un peu tout ce qu'on cherche.
Alors, c'est certainement pas me faire doubler par les voitures, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est dangereux et puis des fois on y pense, moi quand je conduis aussi, je vois parfois les voitures devant moi, je me dis, oh là, lui, il roule pas bien droit, je suis sûr qu'il est sur son téléphone. Ça fait flipper, hein. Moi franchement, ça fait flipper. Donc on essaie d'avoir des routes qui sont les plus sécuritaires possibles. Je vais éviter les grands axes, éviter les routes où ça peut rouler vite, mais c'est le point, le gros 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 point négatif du vélo, je dirais, en tout cas du vélo de route. Après on peut faire du VTT, du gravel qui se développe pas mal aussi sur des chemins. Là je pense que c'est un petit peu différent, il y a d'autres soucis aussi, hein, mais en tout cas il y a moins ce problème de cohabitation, je pense, avec les automobilistes, qui peut être parfois un peu compliqué. La circulation aussi en ville, des fois c'est assez compliqué. Les aménagements sont pas toujours bien adaptés à la pratique du cyclisme sur route. Mais moi sinon, mon plaisir, clairement, en fait, ça va être de voir plein de paysages. Ça, c'est pour moi un gros point fort du vélo, c'est que on va quand même relativement vite et on peut faire des sorties facilement de plus de 100 km en tout cas, et puis voir plein de paysages sur une sortie. Il y a cette sensation de vitesse, que ce soit sur le plat, en descente ou en montée, on a quand même une certaine vitesse qu'on n'a pas par exemple en course à pied. Et puis moi, comme je te l'ai dit aussi, je suis passionné de l'optimisation de la performance et je pense que je retire aussi beaucoup de plaisir au fait de progresser et au fait d'optimiser ma performance, d'aller chercher tous les petits leviers qui peuvent me faire progresser. Et ça voilà, c'est quelque chose maintenant qui me maintient motivé. Aussi le cyclisme, pour ça, c'est un sport où il y a beaucoup de data, beaucoup de données. Ça fait très longtemps qu'on a les capteurs de puissance, au moins une dizaine d'années pour certains, donc ça, c'est voilà, c'est un truc, quelque chose qui arrive en course à pied, les capteurs de puissance, mais qu'on a en cyclisme depuis très longtemps. Et puis bah, c'est un super outil pour progresser, suivre ses progrès et monitorer son entraînement. Donc voilà, c'est un tout. Je pense qu'il y a, le plaisir, moi, de l'exploration, vraiment, que j'aime beaucoup. Moi, j'adore partir pour faire 6 heures de vélo avec ma sacoche, et puis c'est parti, quoi. On part un peu à l'exploration, se faire des parcours. Moi, je prépare beaucoup mes parcours à l'avance. J'aime bien voilà, que ça soit aussi optimisé. J'optimise pas que la performance, j'optimise aussi les parcours. Et puis voilà, on profite. Et puis bah, de l'autre côté, il y a aussi l'amélioration de ses performances, suivre ses progrès, qui est quelque chose qui est motivant tous les jours, quoi.
Tu ferais du trail, tu ferais partie de ceux que j'appelle les ingénieurs du trail. C'est ceux qui regardent toutes les datas, les données, qui préparent tout, à l'inverse de ceux qui sont vraiment feeling, on se laisse couler. Tu vois, peut-être qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui dans le vélo comme dans la course à pied font du sport comme ça pour le plaisir au début, et puis qui passent progressivement vers de l'optimisation. Est-ce que t'en croises des gens comme ça? Parce que plus tu progresses et plus tu vas peut-être chercher à progresser encore un peu plus, un peu voir qu'est-ce que tu peux améliorer et du coup te renseigner, commencer à apporter quelques data en plus. Dans le vélo, c'est comme ça aussi, c'est un petit peu, tu rajoutes cette composante, puis celle-ci, puis t'analyses ça, tu te rends compte qu'il y a ça que tu peux améliorer aussi. Enfin, il doit y avoir tellement de paramètres, tant techniques que physiques, que entraînement croisé. Enfin,
Ah oui, non, c'est presque infini, hein, tous les paramètres qu'on peut optimiser. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans le cyclisme, peu importe le niveau. Voilà, c'est courant de croiser des athlètes qui ont voilà, commencé le vélo peut-être il n'y a même pas un an et qui vont voilà, déjà chercher à optimiser leur matériel, qui vont chercher voilà, à optimiser tous les petits détails. Donc voilà, je pense qu'il y a tous les profils, hein, j'en croise aussi beaucoup qui voudront jamais entendre parler de capteurs de puissance ou ce genre de choses. Mais voilà, quand même, je trouve, enfin, après c'est peut-être parce que c'est ce que je côtoie aussi, hein, le plus. Mais quand même, le cyclisme, c'est un sport où voilà, qui demande une certaine rigueur, une certaine optimisation pour progresser, pour être au niveau, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup quand même de profils assez pointus sur l'optimisation des performances. Il y a quand même aussi beaucoup de demandes d'entraîneurs. Enfin voilà, moi je suis plein depuis longtemps et je connais pas d'entraîneurs actuellement là qui prennent du monde. Enfin, si j'en connais peut-être un ou deux qui vont prendre 2-3 personnes encore, mais c'est tout en fait. Voilà, il y a beaucoup d'athlètes qui vont choisir de prendre un coach justement pour être guidés à ce niveau-là sur tous les leviers de la progression. Et voilà, donc franchement, je pense que c'est une grosse majorité d'athlètes qui va essayer d'optimiser ses performances.
Ah, c'est intéressant ça, parce que tu vois, dans le trail, on voit beaucoup quand même de coachs qui cherchent des athlètes, hein. Bon, après, les meilleurs entraîneurs nationaux, eux, forcément, eux, ils ne recherchent pas, mais par contre, je vois beaucoup de coachs qui se disent voilà, je suis dispo, s'il y avait du monde qui.
Non, maintenant, c'est dans la culture, hein, dans le cyclisme, quand même, d'avoir un entraîneur. Voilà, même chez les jeunes, à partir des 16-17 ans. Moi, je me souviens quand j'avais cet âge-là, c'était une question qu'on se posait entre coureurs, entre nous. C'est « Ah, bah, t'es un entraîneur ou pas ?» tout ça. Et c'était quelque chose... Voilà, c'est admis dans la culture maintenant qu'avoir un entraîneur, c'est un point positif et c'est quelque chose qui nous fera progresser physiquement, mais aussi qui pourra nous encadrer un petit peu psychologiquement, enfin nous soutenir, et puis qui pourra nous aider à nous motiver parce que on a quelqu'un qui nous suit, on a quelqu'un qui nous prépare nos entraînements, qui va y passer du temps, et donc on a aussi pas envie de décevoir cette personne. Beaucoup d'athlètes maintenant ont des entraîneurs, et c'est courant dans le cyclisme, et ça fait partie de la culture, quoi.
Alors, en parlant de choses qui sont courantes dans le cyclisme, je n'ai pas envie de rentrer dans le cliché, mais j'ai envie d'en parler quand même, parce que c'est mon devoir. Et j'ai reçu Christophe Basson sur le podcast, et on a longuement parlé du sujet du dopage. Et il a affirmé que le dopage dans le trail existe. Comment est-ce que le cyclisme évolue par rapport à ce sujet-là? Parce que il y a quand même cette image de tous dopés qui lui colle au basque. Comment est-ce que toi tu perçois ça de l'intérieur?
Moi de l'intérieur, c'est une question que aussi je me suis beaucoup posée. J'ai jamais vraiment été confronté à ça de mes propres yeux, mais voilà, depuis cette année, moi je travaille pour l'équipe Cofidis, qui est au plus haut niveau du cyclisme professionnel, qui est au niveau World Tour. Et voilà, j'étais curieux de voir comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, quoi. Comment c'est organisé, est-ce qu'on parle un peu de dopage, à quoi ça ressemble. Et concrètement, ça m'a beaucoup rassuré, parce que donc j'ai été présent sur tous les stages cet hiver, j'ai passé plus de 20 jours avec eux. Et alors déjà, on parle dopage, en tout cas, prévention, des pratiques dopantes, c'est un sujet qui est abordé, et clairement le discours c'est que il y a pas de ça dans l'équipe Cofidis, ça n'a pas sa place. Donc ce que j'en ai compris, c'est vraiment que, en tout cas au niveau des équipes, pour moi dans le cyclisme professionnel, j'ai pas de doute sur les équipes. J'imagine, et ça j'en suis presque sûr même, qu'il y a des individualités qui doivent tricher. Ça je pense qu'il y en aura toujours, malheureusement. Et voilà, ça c'est certain qu'il y en a, et je pense que c'est commun à tous les sports. Mais il n'y a plus ce dopage organisé vraiment dans les équipes, où Christophe Basson, j'ai écouté certains de ses podcasts où il était invité, où voilà, en fait, on te laisse presque pas le choix, et quand on se dope pas, on est une exception. Là, je pense que c'est plutôt l'inverse maintenant. Les tricheurs, ça va être une exception, et il y a quand même une majorité de coureurs propres, comme on dit, une quantité de contrôle qui est incroyable. Bah, justement, là, sur les stages en Espagne où j'étais avec l'équipe Cofidis, les contrôleurs, ils sont passés, je ne sais pas exactement le nombre de fois, mais ils sont passés quand même plusieurs fois, contrôler plusieurs coureurs, etc. à chaque fois. Et voilà, c'est des coureurs qui vont mettre dans le cyclisme leur localisation, ils doivent tout le temps mettre leur localisation, il y a beaucoup de contrôles inopinés, il y a des contrôles sur les courses. Donc en tout cas au niveau professionnel, le cyclisme est très contrôlé, et je suis plutôt rassuré sur le dopage. Après, je pense au niveau inférieur, au niveau amateur, au niveau auquel je cours, je vois qu'il y a assez peu de contrôle. Il y en a, mais ça reste quand même limité. Moi, je me suis jamais fait contrôler, pourtant je cours quand même un bon niveau. Et voilà, là j'imagine qu'il y a peut-être plus de coureurs qui vont tenter de tricher. Après, voilà, pareil au niveau même cyclosportif, ce qui est grande fonte d'eau, voilà, ça c'est pareil. Je pense que je commençais à en faire cette année un petit peu des grandes fonds d'eau, des cyclosportives, et voilà, des épreuves qu'on appelle de masse, je crois, un petit peu, type l'étape du tour par exemple. Donc je crois qu'il y a quelques contrôles, j'ai déjà vu ça, mais sur 2000 participants ou plus, c'est impossible de tout filtrer, donc j'imagine qu'il y en a aussi, mais je pense pas que ça soit plus que dans d'autres sports au final. Voilà, je pense que dans tous les sports, il y a toujours quelques personnes qui vont essayer de dépasser les limites et tricher, quoi. Donc, voilà.
Moi, de mon point de vue, je pense que c'est un raccourci qui est fait par pas mal de personnes qui se disent pour arriver à faire ce qu'ils font, il faut forcément être dopé. C'est un petit raccourci qui est plus facile à comprendre, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'ils ont mis en place derrière, et quel est le travail qu'il y a derrière depuis toutes ces années, et qu'est-ce qu'ils ont optimisé concrètement, clairement, pour pouvoir arriver à ce niveau et faire ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que quand tu vois monter un col à je ne sais combien de kilomètres heure sur je ne sais combien de kilomètres, et enchaîner le lendemain la même chose, tu te dis, moi j'arrive même pas à aller au travail en vélo, tout de suite tu te dis, pour faire ça faut forcément être dopé, quoi. C'est un peu le raccourci qui est fait, je pense.
Non, mais c'est clair, parce que moi je trouve, par exemple, le vélo, n'importe qui a déjà fait du vélo dans sa vie, déjà monté sur un vélo, donc forcément c'est ultra impressionnant. On voit les moyennes, on voit 45 km/h de moyenne sur 190 km, ça paraît fou. Si on va sur une piste cyclable, qu'on se met à 45 à l'heure, on tient 200 mètres et les gens forcément ils comprennent pas. Alors que pour d'autres sports, je sais pas, le sprint en athlétisme ou la natation ou enfin n'importe quel autre sport, en fait on a moins ces repères, on a moins voilà, personne va essayer de courir. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a moins ce doute-là, alors qu'en cyclisme, en fait, quelqu'un qui se rend pas compte du matériel, de tout ce qui se passe, voilà, sur une course, quand on fait 45 km/h de moyenne sur 190 km, on n'est pas tout seul. On est 200 coureurs, généralement, c'est voilà, entre 150 et 200 coureurs, on va dire. Et puis, bah, y a un phénomène d'aspiration qui est énorme. Enfin, voilà, quand on est dans les roues, mettons sur le plat, donc qu'on est bien au chaud dans le peloton, comme on dit. Honnêtement, si ça roule à 45 à l'heure et qu'on est bien placé, on pédale presque pas. Donc voilà, forcément, faut s'activer un petit peu, faut s'activer sur les relances, faut s'activer dès que ça monte un petit peu. Mais voilà, en groupe, on va atteindre quand même des grosses vitesses. Au niveau aussi, on est quand même encadré par beaucoup de véhicules, que ce soit les journalistes, les arbitres, les équipes. Il y a voilà, tout un cortège autour de la course. Et ça aussi, mine de rien, d'un point de vue aéro, bah ça aide hein, quand il y a les véhicules, même s'ils ont de l'avance sur le peloton, mine de rien, ça aide quand même. Et puis bah, les routes sont fermées, donc bah, forcément, voilà, on ne s'arrête pas au stop, on ne s'arrête pas au feu rouge, donc ça trace. Quoi. Donc voilà, je pense que c'est plein de facteurs. Et puis même bah, le matériel, maintenant, les vélos, c'est quand même incroyable. Quoi. Vraiment, ça roule très, 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 très bien, justement, avec tout ce qui est optimisation du matériel maintenant, l'aérodynamisme, les frictions au niveau des chaînes, on va choisir vraiment qu'est-ce qu'on met même sur la chaîne comme lubrifiant, ça c'est tout ça, c'est plein de petits watts qu'on peut gratter comme ça, et puis ainsi de suite, quand on accumule tous les petits gains qu'on peut faire, on se retrouve avec des vélos qui avancent très très vite, quoi. Faut quand même pédaler, mais bon, ça aide le matériel maintenant, on sait que c'est une part très 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 importante de la performance en cyclisme.
Alors ce sujet du matériel, des fois ça, c'est un petit peu risible en fait quand tu vois des coureurs qui, enfin des, oui c'est ça, des coureurs qui sont en surpoids et qui vont acheter la dernière paire de roues à 2000 balles la roue pour gagner 100 grammes. Il y a quand même une petite course à l'équipement qui parfois c'est un peu trop quoi, non?
Ouais. Après. Moi, en tant que cycliste, j'ai envie de dire tant mieux pour eux, hein, s'ils peuvent se le permettre. ils ont de la chance de pouvoir se payer des beaux vélos. Tant mieux pour eux. Mais oui, effectivement, c'est voilà. C'est le monde dans lequel on vit maintenant. La société fait que toujours des nouveautés, toujours des nouvelles choses, parce que il faut la croissance. Donc si on veut croître, il faut vendre toujours plus. Donc il faut se débrouiller pour que les gens achètent toujours plus, donc voilà, tout un tas de stratégies marketing, c'est la société maintenant, et ça se voit beaucoup dans le cyclisme, mais ça se voit aussi dans plein d'autres domaines de la vie, mais voilà, on peut changer de vélo tous les ans, j'en vois beaucoup qui vont changer de vélo tous les ans, acheter toujours des nouvelles roues tous les ans, acheter toujours du nouveau matériel, toujours plus, toujours mieux, et voilà, c'est une course un petit peu sans fin, quoi.
Alors justement, toi qui es dans l'optimisation de la performance, quel est le premier conseil, levier qu'on peut activer et qui fait vraiment une vraie différence sur son niveau qu'on va avoir en vélo?
Alors, le premier levier, ça serait l'entraînement, mais c'est peut-être un peu trop facile comme réponse. Moi, j'aimerais parler, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est la nutrition de l'effort. Clairement, c'est un truc de fou. Ça, c'est encore un petit peu mal compris par certains, même au plus haut niveau, mais en fait s'alimenter pendant l'effort, c'est super important, ça va tout changer à la performance, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Pour moi, voilà, dans les deux cas c'est très intéressant. Il y en a qui vont se dire qu'il faut pas manger à l'entraînement parce que ça va être plus dur et que en course on amène le carburant et donc ça va être plus facile. Oui, forcément, mais bon, si on peut profiter de ce carburant à l'entraînement pour s'entraîner plus dur, pour mieux récupérer, en fait, on va bien plus progresser sur le long terme. Et puis, ça n'empêchera pas de bénéficier des effets positifs de la nutrition de l'effort pendant la compétition. Donc voilà, pour moi, c'est un sujet d'actualité. Ça, voilà, on en parle de plus en plus. Et voilà, souvent, c'est finalement un problème d'éducation plus que... plus qu'au qu'autre chose en fait. Hein, c'est voilà, pendant longtemps ça a été répété que c'était en tout cas quelque chose qui était pas essentiel, et puis au final maintenant on se rend compte que ça fait toute la différence. Et voilà, chez n'importe qui à qui voilà j'ai pu donner des conseils sur la nutrition, moi j'ai fait notamment une formation sur la nutrition de l'effort. J'ai eu plein de retours ultra positifs. C'est vraiment, enfin il y en a qui me disent ça a changé ma vie. Alors on s'est un peu exagéré, mais clairement les sensations à l'entraînement elles ne sont plus les mêmes. On revient d'un entraînement, on a pu faire 4-5 heures d'effort facilement, à la fin on n'est pas fatigué, on rentre, on n'a pas faim. Là voilà, maintenant donc on va beaucoup parler pour les, notamment ce qui va nous intéresser le plus avec les glucides qui sont les sucres hein, qui sont la source de carburant dont on a le plus besoin pendant l'effort. Voilà, on a déjà des réserves de graisse qui sont ultra conséquentes, donc voilà, on va pas forcément chercher à en apporter pendant l'effort. Ce qui va nous intéresser ça va être les glucides, et c'est un carburant qui est très très performant, qui va nous permettre d'avoir de l'énergie très rapidement. Et voilà, quand on va en apporter, donc on va compter en grammes par heure de glucides. Voilà, ce qu'on recommande maintenant c'est en tout cas plus de 60 grammes par heure de glucides minimum. Et voilà, on peut aller chercher beaucoup plus. Si on fait 5 heures d'effort, on peut être à 100, 120 grammes de glucides par heure. Et quand c'est comme ça, quand on mange 120 grammes de glucides par heure pendant 5 heures, après la séance, on n'est pas fatigué, on récupère beaucoup plus vite. Et puis, on n'a pas faim, donc on peut faire une petite collation après la sortie. Et alors que quelqu'un qui ne va pas manger pendant 5 heures, vaut mieux avoir prévu de quoi manger, parce que sinon, ça risque d'être compliqué après la sortie, quoi. Vraiment, on peut tout dévorer tellement on a faim. Donc voilà, c'est un levier de la performance qui est énorme, et ce, peu importe le niveau, au final. Voilà, ceux qui vont, pareil, genre, encadrer un petit peu. Il y a voilà, l'année dernière quelques cyclistes qui débutaient hein, dans le vélo, qui avaient voilà, peut-être un an d'expérience, qui avaient du poids à perdre, et pour qui ça leur paraissait logique de pas manger pendant l'effort parce qu'ils voulaient perdre du poids. Sauf qu'en fait, bah, moi je dois leur expliquer que justement ils vont plutôt bénéficier de manger pendant l'effort pour pas rentrer après la sortie, être complètement cramé, et puis bah, devoir tout dévorer, puis au final manger beaucoup plus que ce qu'ils avaient besoin. Au final, quand on mange bien pendant l'effort, c'est bah, sur le long terme une meilleure progression, une meilleure récupération et puis une meilleure performance, quoi. Donc c'est pour moi le levier peut-être le plus sous-estimé et pourtant peut-être le plus important, quoi.
Alors justement, sur le podcast, j'ai un partenaire nutrition, donc tu me fais une transition toute faite. C'est NAC, le partenaire que j'ai sur le podcast pour l'année 2023. Et personnellement, j'utilise leur mélange pour boissons, surtout en vélo, parce que tu vois ce que tu as décrit, je me suis vachement reconnu là-dedans. Dans j'essaye de pas manger pour me dire que quand je suis en compète et que j'apporte carburant, et bah forcément je vais avoir un peu plus de punch. Mais depuis, j'utilise surtout en vélo leur mélange pour boisson. C'est très pratique en vélo parce que tu mets ça dans tes gourdes. Donc chers auditeurs, n'hésitez pas à aller checker, je vous mets un lien dans la description sur il y a deux goûts, citron vert, pastèque. Ça passe plutôt bien, et vous avez un petit code promo en plus dans la description pour aller prendre vos produits si vous le souhaitez. Et donc NAC, ça me fait penser à une question que j'ai envie de te poser, Mathieu, justement avec ce sujet de la performance. Comment est-ce qu'on sait finalement ce qu'on doit manger? Est-ce que toi tu es plutôt vraiment à regarder, à compter, ou est-ce que toi, comme en ultra trail, on a souvent cette culture de l'écoute du corps, de se dire je mange quand j'ai faim, je bois quand j'ai soif. Toi, tu regardes vraiment telle heure, je dois manger ça, telle quantité, ou
ouais.
Feeling.
Ouais, clairement, pour la nutrition de l'effort, on est en tout cas obligé de passer par là un moment pour se rendre compte en fait concrètement, parce que il y a des coureurs à qui je vais leur poser la question, est-ce que tu manges bien, qu'est-ce que tu manges pendant la course, etc. Ils vont me dire oui, je mange bien, j'ai mangé 2 pâtes de fruits pour 3 heures d'effort. Et puis moi, si on fait le calcul, ils ont quoi, 10 grammes par heure de glucides grand maximum, donc c'est ridicule. Et en fait, voilà, c'est important d'objectiver au moins à un moment qu'est-ce qu'on a mangé, et puis le gap qui nous reste par rapport aux recommandations pour optimiser sa performance et sa récupération. Donc voilà, pour moi, c'est important de l'objectiver à un moment et de calculer. Voilà, moi, j'ai pour les coureurs que j'entraîne, un fichier Excel dans lequel ils remplissent ce qu'ils ont mangé, et puis ils peuvent faire leur stratégie en amont, parce que c'est important aussi moi, pour n'importe quelle course et même les entraînements, au final, de préparer la stratégie en amont, parce que bah, si on n'a pas ce qu'il faut en fait dans nos poches, ou si on n'a pas ce qu'il faut avec nous, on va pas pouvoir s'alimenter comme il faut. Donc c'est important de prévoir en amont pour avoir ce qu'il faut, avoir ce qu'on a besoin et pas manquer. Donc voilà, pour la nutrition, l'effort, clairement, ça peut pas s'improviser, et voilà, même s'écouter. Moi, je veux bien qu'on essaye de s'écouter. Le problème, c'est que si on se base seulement là-dessus, comment on fait si en fait on a pris 3 barres, j'en sais rien, dans notre poche, et puis au final on veut s'écouter, sauf que bah en fait on avait que 3 barres dans notre poche, et puis bah on en a plus quand on en a besoin, parce qu'on a déjà mangé nos 3 barres. Donc voilà, je pense que c'est important à un moment de préparer, d'anticiper et de voilà, de calculer un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir besoin, qu'est-ce qu'on devrait consommer idéalement, et puis après rien n'empêche d'adapter pendant la séance si besoin, mais encore une fois, je trouve que en tout cas pour la nutrition de l'effort, on va quand même atteindre une quantité qui est supérieure à ce qu'on ressent. Enfin moi, qu'on va commencer à être sur 100 grammes par heure de glucides, c'est plus que ce qu'on mangerait généralement naturellement, et pourtant c'est pas pour ça que c'est mauvais. Au contraire, c'est souvent voilà, si en tout cas on fait une course assez longue et avec des intensités, ça sera ce qui permettra d'optimiser le plus les performances. Donc voilà, non, s'écouter, c'est bien, mais ça a ses limites, en tout cas au niveau de la nutrition. Au niveau de la soif, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Voilà, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que c'est plus intéressant de s'écouter, de boire à la soif, plutôt que de suivre un plan précis où il peut y avoir un risque de surhydratation, et derrière ce qu'on appelle l'hyponatrémie, qui est un taux de sodium trop faible dans le sang, et qui voilà, est dû quand on boit trop d'eau, et ça peut être quelque chose qui est même mortel, donc c'est assez grave. Et là, pour le coup, voilà, boire à la soif, c'est plus pertinent, mais encore une fois, si on n'anticipe rien du tout, en fait, le problème, c'est ok, on peut boire à la soif, sauf que si on n'a pas de quoi boire, on va pas pouvoir boire à notre soif si on n'a plus rien à boire. Donc, pour moi, voilà, quoi qu'il arrive, c'est important à un moment d'anticiper. Alors, voilà, après, je sais que sur des épreuves plutôt ultra, c'est un peu différent. Il y aura aussi des contraintes de logistique. Voilà, en tout cas, sur les épreuves plus courtes où il n'y a pas cette contrainte logistique, ça sera super important d'anticiper. Après, je sais qu'en vélo, c'est aussi assez facile. Hein. On peut, voilà, on a nos bidons qui seront bien remplis. On peut calculer exactement combien il nous en faut. Au niveau, on a du ravitaillement, on a des assistants, on a les voitures derrière pour récupérer à boire s'il faut. On a les poches qu'on peut bien remplir. Souvent, les poches sont quand même assez grandes. Donc voilà, d'un point de vue logistique, c'est quand même plus facile en cyclisme, je pense. Mais voilà, ça n'empêche que pour moi, à un moment, il faudra calculer pour anticiper ce qu'on aura besoin. Quoi.
Ah, c'est exactement ce que j'ai vécu sur la partie s'écouter. Quand j'ai commencé le trail, c'était vraiment entre la culture de « faut boire une gorgée toutes les 10 minutes ». Et du coup, j'avais même mis un chrono sur ma montre. Ma montre a sonné toutes les 10 minutes et je buvais un petit peu. Au final, je vomissais tout le temps. Tout le temps, ah ouais. Tout le temps. J'ai arrêté de faire ça et bizarrement, je ne vomis plus. Boire quand on a soif, c'est un conseil que maintenant je donne par expérience. Après, voilà, il faut toujours tester. Hein, la méthode, je teste, j'adapte. Est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas? Chacun peut dire ce que la méthode qui est la plus adaptée. Il y a quelque chose aussi en vélo que j'ai découvert, c'est de la technique. En fait, il suffit pas de monter dessus et pédaler, quoi. Il y a une technique en vélo. Comment tu travailles ça?
Ça c'est ouais, c'est clair, c'est super important. Comment on le travaille? C'est, je pense, être déjà conseillé par quelqu'un en face. En fait, c'est comme n'importe quel sport, la natation, on va prendre un prof qui va nous apprendre à nager. Le vélo, c'est un petit peu pareil. Il faudrait, voilà, en tout cas être accompagné au début pour savoir comment on change de vitesse. C'est des trucs un peu simples, hein, mais c'est clair que si on passe pas par cette étape là comment bien utiliser son braquet, en fait c'est super important, et ça on le voit chez ceux qui débutent, c'est pas toujours bien compris exactement quel braquet on doit utiliser, comment changer de vitesse, comment voilà. Donc ça, c'est une étape importante. Après, il y a tout ce qui est freinage, tout ce qui est descente. Voilà, encore une fois, je pense qu'il faut être, accompagné là-dessus et avoir quelqu'un de plus expérimenté qui peut nous aider. Voilà. Mais c'est clair que c'est super important parce qu'on perd une énergie folle si on ne sait pas descendre, si on ne sait pas freiner, qu'on n'est pas très à l'aise sur le vélo. Ça va nous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc après, voilà, c'est comme tout, ça s'apprend avec le temps et puis le travail. Ça s'apprendra, c'est pas parce qu'on commence le vélo sur le tard que c'est entre guillemets foutu et qu'on pourra plus progresser d'un point de vue technique. Non, il n'y a pas de raison, si on travaille et qu'on y fait attention, on pourra progresser sans problème sur la technique. Et puis voilà, après ça vient aussi assez naturellement avec le temps et avec les heures de pratique. On progresse d'un point de vue technique, mais je pense que c'est important d'être accompagné au moins au début pour tout de suite... avoir les bons automatismes et prendre les bonnes habitudes, quoi.
Tu vois, c'est ultra pertinent ce que tu dis parce que moi, je m'en suis rendu compte quand je suis allé courir rouler du coup, tu vois, les vieux automatismes. Je suis allé rouler avec un ami de mes beaux-parents et qui lui faisait du vélo à plutôt bon niveau comme ça et il a fait du vélo depuis toujours, voilà, et puis on a été partagé une sortie ensemble. Et c'est en fait après cette sortie qui m'a dit purée, ça se voit que t'es un coureur, tu fais tout en puissance, t'es raide. Et en fait, pour moi, ça voulait rien dire ce qu'il me disait, tu vois. Moi, je monte sur le vélo, je roule, j'appuie dessus, et puis voilà, fin de l'histoire. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a, voilà, c'est comme tous les sports, hein, de toute façon. Après, je pense que le vélo reste quand même assez accessible comparé à d'autres sports. On peut s'en sortir assez rapidement et je pense progresser d'un point de vue technique assez rapidement. Puis après, voilà, une fois qu'on a un niveau satisfaisant, déjà ça se perd pas vraiment et puis voilà, il n'y a pas non plus une marge de progression d'un point de vue technique qui est infinie. Une fois qu'on a atteint un bon niveau, ensuite on pourra le garder et puis voilà, se faire plus plaisir. Ce que je pense, c'est quand même important aussi pour son plaisir. Quand on n'est pas très à l'aise sur le vélo, qu'on va se fatiguer au final plus vite, on va être peut-être moins rassuré aussi parce que mine de rien, on est quand même sur la route. Donc des fois, ça peut nous sauver de bien maîtriser son vélo, que ce soit dans les descentes ou voilà, avec la circulation. Parfois, on a quand même besoin de faire des freinages d'urgence ou de voilà, ce genre de choses qui sont des choses qui s'apprennent. Et si on ne l'a jamais fait, c'est comme en voiture. Au final, on a besoin de s'entraîner un petit peu et puis de maîtriser, maîtriser voilà, ces techniques pour être plus serein et mieux profiter du cyclisme.
Et toi qui es justement encore une fois dans l'optimisation de la performance, quel est ton avis sur les méthodes Swift avec Home Trainer et puis un écran connecté alors pour tous ceux qui connaissent pas, je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir à quoi ça ressemble la méthode Swift exactement. On dit Swift, mais parce que tu vois, moi j'ai essayé l'année dernière pendant l'hiver 2021, ouais, 2021-2022, et j'ai absolument trouvé ça infâme, mais vraiment, j'ai pas du tout aimé, parce que d'être tout seul devant son écran, dans sa maison, on transpire comme un porc, mais par contre, je pense que en termes de performance, c'est plutôt pas mal. Quel est ton avis à toi?
Ouais, alors c'est vrai que ça s'est beaucoup développé avec le Covid notamment et les confinements successifs qu'il y a eu, voilà, où on a été contraint de ne plus sortir pour faire du vélo, ou en tout cas voilà, s'il y avait un rayon, je me souviens plus exactement le rayon, mais pour faire du vélo c'était vraiment compliqué, donc voilà, beaucoup se sont rabattus sur les home trainers connectés, donc notamment Zwift, qui est en fait une plateforme qui va nous permettre de pédaler dans un monde virtuel. Le but principal finalement, ça va être de se divertir pendant qu'on pédale. Alors je suis pas un grand fan non plus. J'ai investi cet hiver dans un bon home trainer, mais c'est, je pense, pas le meilleur investissement que j'ai pu faire de ma vie. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Voilà, ça dépanne. Mais voilà, moi, je n'utilise pas énormément. Après, chez ceux que j'entraîne, ça va être un outil quand même pratique, notamment sur les athlètes qui vivent en région parisienne ou qui ont un métier de... qui ont un métier tout simplement quand on finit tard le soir et que on n'a pas le temps de rouler dans la journée. Le cyclisme, pour le coup, c'est vrai que vu que ça demande un peu de temps, ça demande d'être dehors. Par rapport à la course à pied où on peut se débrouiller peut-être le midi, se débrouiller peut-être un peu plus facilement pour s'entraîner. En cyclisme, parfois c'est un peu compliqué. Et puis surtout quand on habite dans une grande ville où il y a la circulation, si on phare si on a peut-être 2 heures de disponible, mais qu'on passe déjà 1 heure pour traverser la ville, une demi-heure pour sortir de la ville et une demi-heure pour rentrer, et qu'on a finalement 1 heure de sortie, c'est pas très très bien optimisé. Donc il y a beaucoup d'athlètes amateurs qui vont finalement faire une majorité de leurs entraînements, en tout cas leurs entraînements en semaine, sur un home trainer connecté et puis utiliser des plateformes comme Zwift. Dans ce cas-là, ouais, ça fonctionne très bien. Après, tu parlais de technique juste avant. Le risque aussi, c'est si on fait presque exclusivement de l'home trainer connecté, où au final, là, pour le coup, niveau technique, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est appuyer le plus fort possible sur les pédales. Pour le coup, on peut se retrouver avec des personnes qui ont un gros moteur, qui ont un gros niveau, sauf que dès qu'on les met dans la circulation, dès qu'on les met dans la vraie vie, finalement, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas ces habitudes, ils n'ont pas ces automatismes de position sur le vélo, de freinage, de virage, tout cet aspect technique au final qui va manquer. Donc moi je pense que c'est important, si en tout cas on veut être performant dans la vraie vie, de faire aussi du vélo dans la vraie vie. Maintenant il y en a qui font exclusivement de l'home trainer connecté, donc du Zwift, et qui vont faire des compétitions sur Zwift. On peut faire des compétitions et puis au final ça va être leur plaisir à eux et ils n'auront pas d'objectif sur la route dans la vraie vie. Donc voilà, c'est leur plaisir à eux, c'est leur sport. Finalement, ce n'est pas exactement le même sport que le cyclisme sur route parce que y a moins de composantes matérielles, moins de composantes techniques aussi. Donc c'est un petit peu différent. Et après, en tant que méthode d'entraînement pour progresser, comme je disais, si on habite en ville, qu'on a pas mal de contraintes, ça peut être une très bonne méthode de faire du home trainer connecté en semaine. Le gros problème qu'il peut y avoir, c'est l'aspect technique, mais c'est aussi... le fait de faire trop d'intensité, souvent on va compenser le fait que sur un entraîneur connecté, qu'on soit chez soi tout seul, ça peut être vite un peu long, sauf quand on fait des intensités justement et qu'on va se mettre au final toujours à bloc, toujours à faire des exercices, faire des courses aussi. Il y en a qui vont faire 3-4 courses dans la semaine sur Zwift, et là le problème c'est quand on a trop d'intensité et c'est pas bon du tout pour progresser sur le long terme. Là on va se fatiguer plus qu'autre chose. Et je ne recommande pas du tout, clairement c'est une très mauvaise méthode d'entraînement de faire trop d'intensité. Donc si on roule, si on fait 1 à 2 séances intenses par semaine, pour moi c'est le grand maximum pour en tout cas durer sur le long terme et progresser. Donc ça implique qu'il y ait des séances du coup plutôt endurance, même sur Zwift, même sur home trainer, c'est possible. Là, on peut faire une heure en endurance, c'est pas un problème. C'est pas parce qu'on n'a pas fait d'exercice et qu'on n'a pas fini la séance complètement cramé qu'on va pas progresser. Et voilà, donc ça c'est ceux qui veulent progresser, pour moi ils doivent faire vraiment très très attention là-dessus. Ceux qui veulent juste se défouler après le travail et ils s'en fichent de progresser, à la limite ils peuvent se défouler s'ils veulent, mais ça sera pas le plus optimal pour progresser quoi.
En trail on a pardon purée, j'ai failli m'étouffer en commençant ma question. En trail on a quelque chose qui est apparu maintenant il y a quelques années, qui s'appelle l'entraînement croisé. Le concept c'est d'aller faire un autre sport que son sport de prédilection qui est le trail ou la course à pied. Quand tu es en montagne, c'est assez facile entre guillemets parce que l'hiver tu vas aller faire du ski. Quand tu es en plaine, c'est un peu plus compliqué entre guillemets parce que il faut aller soit faire de la natation, soit faire du vélo, mais faire du vélo l'hiver, c'est pas forcément évident. Est-ce que en vélo, dans l'optimisation justement de la performance, on a aussi ces concepts d'entraînement croisé, d'aller faire un autre sport pour progresser dans son sport qu'est le vélo?
Non, beaucoup moins. Beaucoup moins, on n'en parle pas du tout. Ça peut être intéressant, mais c'est pas non plus le plus intéressant. Parce que en course à pied, ça peut être intéressant quand même pour limiter tout ce qui est traumatismes, tout ce qui est, voilà, tous les impacts en fait. Donc là, on peut faire des sports comme tu as parlé de natation, de cyclisme. Là, on va pouvoir accumuler du volume d'entraînement sans, enfin, en tout cas avec beaucoup moins de risques de blessures. Donc ça va être intéressant sur cet aspect-là, et puis on va pouvoir quand même développer tout ce qui est endurance, donc toutes les adaptations qui s'en suivent au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire, au niveau mitochondrial. Après, en cyclisme, on peut déjà accumuler beaucoup de volume, on a déjà assez peu de risques de blessures, donc pour le coup, c'est un peu moins utile. Par contre, ça va être très utile plutôt d'un point de vue finalement... en fait, on a le problème inverse en cyclisme, c'est que vu qu'on a très peu de traumatismes, de chocs répétés, on risque de perdre un petit peu en densité minérale osseuse, donc c'est vraiment la solidité des os au final. Alors qu'en course à pied, bah, il y aura beaucoup d'impact et finalement, on va se renforcer au fur et à mesure grâce à ces impacts. Donc pour le coup, faire un petit peu de course à pied en complément du cyclisme, ça peut être une excellente chose pour se protéger finalement de cette perte de densité minérale osseuse qui peut amener à de l'ostéoporose finalement bah, de manière précoce, en tout cas voilà, plus précoce que la moyenne. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant et ça peut permettre d'améliorer les performances sur le long terme parce que bah, si lors d'une chute, qui sont des choses qui arrivent quand même assez régulièrement, en tout cas dans le cyclisme de compétition, où voilà, on va quand même tomber plusieurs fois par an, bah, si on peut éviter une fracture, sur le long terme, on va bien plus progresser parce que bah, on va être moins longtemps arrêté. Donc c'est une bonne chose. Moi, je le recommande. Après, c'est parfois un peu compliqué à placer. C'est voilà, pas toujours évident à organiser, mais ça peut être vraiment une bonne chose. Il n'y a pas de contre-indication à le faire. Après, il y aura la musculation. Je ne sais pas si on peut parler ça de technique croisée, mais voilà, la musculation, c'est un sport qui permet d'améliorer ses performances en cyclisme et même globalement dans tous les sports d'endurance. On peut suivre des programmes de musculation. Donc voilà, en cyclisme, c'est assez courant et c'est de plus en plus courant aussi de faire de la musculation toute l'année, en faire surtout une bonne préparation hivernale où on ira deux fois par semaine en salle de musculation pendant entre novembre et janvier. Et puis ensuite, une fois que la saison est lancée, que les beaux jours sont de retour, on va en faire ce qu'on appelle un rappel de musculation. En gros, c'est pour pas perdre ses qualités, c'est super important pour maintenir les adaptations, notamment nerveuses, qui sont des adaptations qui vont nous intéresser pour voilà, augmenter ce qu'on appelle le taux de développement de la force, par exemple, donc la vitesse à laquelle on va être capable de développer le plus de force possible. Donc finalement, c'est l'explosivité. Améliorer le recrutement de certaines unités motrices. Donc les unités motrices, c'est ce qui va connecter différentes, des packs de fibres musculaires, on va dire. Il y a des fibres musculaires, des unités motrices de plus en plus grosses qui vont réunir des fibres musculaires de plus en plus rapides. Et ces fibres musculaires-là peuvent nous intéresser. C'est important de savoir les recruter. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer avec la musculation, justement. Et qu'on pourra, du coup, maintenir si on fait un peu de musculation toute l'année. Donc voilà, en cyclisme, il y a quand même peu de pratiques croisées, mais un petit peu de musculation, un peu de course à pied. C'est en tout cas ce que je recommande et il n'y a pas du tout de contre-indication à le faire.
Ouais, plutôt dans une démarche de sport santé personnelle plutôt que de recherche de performance, si ce n'est justement, comme tu disais, le fait de se préserver et de récupérer plus vite en cas de chute ou en cas de pépin physique autre, ouais. Pas trop dans une recherche de performance et d'amélioration de son niveau, quoi. Ok, hyper intéressant, tu vois, ces différentes pratiques. Pourtant, on pourrait se dire que ça reste de l'endurance et puis il y a beaucoup de choses à apprendre. Bon, de toute façon, c'est évident, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu similaires dans les concepts, hein. Toi, tout à l'heure, tu parlais de ne pas faire trop d'intensité. En course à pied, on dit que 70% de son entraînement, c'est l'endurance fondamentale. J'imagine qu'en vélo, on ne doit pas être très loin de ces pourcentages-là. Enfin, il y a pas mal de similitudes quand même, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, généralement, si on parle en pourcentage, il y aura plus de basse intensité en vélo parce qu'on va accumuler plus de volume. Donc forcément, si on compare un entraînement de 6 heures par semaine et un entraînement de 12 heures par semaine qui est deux fois plus de volume, on ne va pas faire deux fois plus d'intensité. Donc la proportion de basse intensité augmentera en cyclisme. Et voilà, c'est pas rare de dépasser les 80% de, de basse intensité quand on l'a mesuré, soit par rapport à un capteur de puissance ou par rapport à la fréquence cardiaque. Et puis voilà, en termes de séances, comme je l'ai dit, c'est une à deux séances intenses dans la semaine, grand maximum, quoi.
Alors, je sens qu'on pourrait parler optimisation de la performance avec toi pendant des heures, hein, j'aimerais qu'on parle d'un sujet et je pense que, tu vois, quand on est là à 52 minutes, 53 maintenant, c'est qu'on a encore que les vrais, là, ceux qui s'intéressent vraiment à ton histoire et ton parcours et j'aimerais que tu nous parles de ton podcast. Pourquoi l'avoir créé? Quels sont les plus grands apprentissages que tu as pu faire sur le podcast, sur le monde du podcast en lui-même, grâce à ce podcast? Qu'est-ce qui t'a apporté et pourquoi l'avoir créé?
Alors ouais, le podcast, moi je l'ai créé parce que je suis un grand consommateur de podcasts et je me suis dit pourquoi pas moi en fait, pourquoi je ne ferais pas un podcast, surtout que moi j'écoute majoritairement des podcasts anglais en fait, où il y a une approche qui existe, que je retrouvais pas en France, en tout cas dans le cyclisme. C'était d'inviter des chercheurs, d'inviter des entraîneurs de très haut niveau. Et ça, dans le monde du cyclisme en France, je ne trouvais pas de ce type de podcast. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Au début, je savais pas trop où ça allait me mener. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire concrètement. C'était un moment de ma vie où, moi, quand je l'ai lancé, donc il y a 2 ans, donc là, j'ai 21 ans, donc j'avais 19 ans. Je savais pas trop vers quoi m'orienter, même si j'avais toujours cette passion de la performance qui était en moi depuis longtemps, mais je savais pas si d'un point de vue professionnel c'était le plus pertinent, parce qu'on sait qu'au niveau il y a assez peu de place, ça reste quand même un tout petit monde, donc on voit en STAPS, qui est l'université qui nous permet d'avoir nos diplômes dans le monde sportif, on voit qu'il y a énormément d'étudiants. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, ça c'est sûr, et tout le monde rêve un petit peu du haut niveau. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas trop qu'est-ce qui m'intéressait. Pour ça, quand j'ai commencé le podcast, je recevais pas que dans le cyclisme, mais au final, même tout ce qui était sport santé qui m'intéressait aussi beaucoup. J'ai pas mal hésité entre m'orienter vers le sport santé ou vers la performance. Et puis au final, le podcast, ça m'a fait comprendre que clairement j'avais une passion pour la performance et qu'en plus je pouvais être compétent dans ce domaine, avec tous les retours positifs que j'ai eu par rapport aux questions que je posais, par rapport à mes invités, par rapport à tout ça. En fait, ça m'a fait comprendre que c'était ma vocation, c'était ma voie, fallait que je creuse dans la performance. Et après un an de podcast où j'ai eu donc un invité par semaine, moi déjà ça m'a permis de m'ouvrir, de construire mon réseau et m'ouvrir à certaines opportunités. J'ai pu me faire connaître, j'ai pu travailler. Moi, pendant un an, j'ai travaillé dans une start-up qui s'appelait Sport Testing. Malheureusement, cette start-up a fermé, mais c'était une expérience incroyable. Pendant un an, on faisait en fait du testing physiologique. Et moi, j'étais un petit peu responsable, on va dire, de tout ce qui était cyclisme, ce qui était développé, les tests pour le cyclisme. Après, moi, j'ai eu l'opportunité dans cette entreprise-là d'écrire mes premiers articles aussi de blog, donc de commencer à prendre la parole en mon nom, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas pendant la première année, donc ça c'est arrivé en juin 2021, jusqu'à cette entreprise-là, finalement, je prenais assez peu la parole, je laissais mes invités parler sur un podcast, c'est le principe. Et j'ai commencé à prendre la parole, à écrire des articles, j'ai adoré ça, vraiment. L'écriture d'articles, ça me plaît beaucoup. C'est comme ça que moi j'ai eu envie du coup en parallèle de développer cyclisme performance et d'aller plus loin, commencer à construire un blog. La communauté a très vite grossi sur le podcast, ça a très très bien fonctionné, j'ai eu beaucoup beaucoup de retours positifs, j'ai senti qu'il y avait une traction autour du projet qui valait le coup d'être poursuivi, ça valait le coup de développer tout ce qui était autour de cyclisme performance et ça me mène maintenant à proposer des formations en ligne, à toujours des articles et puis toujours les podcasts où là du coup maintenant vu qu'on est trois sur cyclisme performance et on tourne, on reçoit des invités chacun notre tour, on sort un podcast par mois donc ça m'a laissé du temps aussi parce que j'ai énormément travaillé pendant presque 2 ans vraiment où j'étais à fond sur tous les fronts pour développer Cyclist Performance, travailler pour Sport Testing, la startup, travailler aussi mes cours vu que je suis étudiant, continuer à m'entraîner parce que bah, j'ai toujours cette envie d'être au haut niveau aussi en cyclisme. Donc voilà, maintenant j'ai diminué un petit peu le rythme, même si c'est toujours un gros rythme, pour voilà, continuer et finir en tout cas là, déjà mon année universitaire là, jusqu'au mois d'avril. Et puis ensuite, voilà, continuer à développer cyclisme performance et puis travailler dans le haut niveau, là, vu que depuis le mois de décembre, là, j'ai l'opportunité de travailler avec l'équipe Cofidis. Donc ça me permet de découvrir le monde professionnel. Donc voilà, tout ça, c'est des opportunités que j'ai pu avoir grâce à ce podcast et à ce réseau que je me suis constitué. Et c'est génial, quoi. J'ai pu rencontrer plein de personnes passionnantes qui voilà, maintenant sont même devenues des amis avec qui j'ai pu beaucoup, beaucoup échanger, se rencontrer en vrai. Et c'est toujours sympa, quoi. Là, maintenant, quand je vais sur les courses, voilà, je pense que c'est quelque chose que tu connais aussi, mais voilà, il y a toujours des personnes super intéressantes qui viennent me voir pour discuter, qui me disent qu'ils ont écouté les épisodes du podcast depuis longtemps. Donc voilà, c'est que du positif et je regrette pas du tout de m'être lancé.
Ça, c'est la magie du podcast et de la création de contenu en général, c'est que il t'arrive des choses que tu n'avais pas forcément prévues, anticipées, même peut-être même pas voulu, et puis qu'au final, ça se fait, tu le vis, et c'est magique, ça, ces choses qui se créent grâce à ce que toi tu crées. Donc les connexions comme ça qui arrivent, moi je trouve ça génial et fabuleux, toutes ces opportunités. Si tu avais le choix entre entraîner ou rouler, tu prendrais quoi?
Entre moi qui fais du vélo ou entraîner les autres si je fais pas de vélo?
Ouais.
Ah, c'est compliqué. Ouais. Parce que ça, je l'ai vécu pour le coup avec Cofidis justement sur les stages cet hiver où j'étais, j'encadrais les sorties, donc j'étais dans la voiture derrière les coureurs. Et c'est compliqué quand même, quand il fait super beau en Espagne, ça donne envie de faire du vélo. Donc choix très difficile et je pense que je préfère rouler quand même.
ça doit être compliqué à faire un choix. En tout cas, je te souhaite pas d'avoir à le faire un jour.
Ouais, non.
Pourquoi est-ce que tu as choisi d'entreprendre? Parce que finalement, tu es entrepreneur, plutôt que de rejoindre en fait une structure déjà toute créée.
Pourquoi bah c'est quelque chose qui me plaît vraiment d'entreprendre. Finalement, j'ai été salarié pendant un an chez Sport Testing, mais j'avais beaucoup beaucoup de liberté. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance, et ça m'a fait découvrir concrètement ce que c'était le vrai entrepreneuriat quand voilà on monte une startup, il y a cette grosse volonté de croissance, de recrutement aussi, d'essayer de trouver les bonnes personnes qui vont aider à le développement de l'entreprise. Donc ouais, ça m'a beaucoup plu. Et puis en même temps, j'ai compris que travailler sur mes projets, où j'ai commencé en fait en parallèle de Sport Testing à développer mes projets vraiment d'un point de vue entrepreneurial, parce que j'ai commencé à y chercher un moyen de monétiser ce que je faisais. Voilà, la première année de podcast, il n'y avait aucune volonté de monétisation. C'était juste pour moi que je le faisais. Puis voilà, quoi, il n'y avait aucune réflexion derrière. Et puis, en fait, c'est venu quand j'ai découvert le monde de la startup. Ça, c'est un écosystème qui est assez passionnant parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'ambition, qui vont se fixer des objectifs assez élevés. Alors souvent en startup, ça n'aboutit pas. Ça, c'est quand même très très courant que les startups s'arrêtent après un an, deux ans ou voilà, même trois ans. Donc c'est très difficile l'entrepreneuriat. Mais voilà, quand on a goûté en fait à ça, je trouve que c'est difficile derrière de revenir en arrière et de finalement travailler pour les autres. Donc voilà, moi, c'est ce qui me plaît aussi avec le fait d'être entraîneur. C'est pour ça que j'ai toujours envie, en fait, toujours eu envie de devenir entraîneur. C'est qu'on a une certaine liberté. Et même si on est dans une structure, donc par exemple dans une équipe professionnelle, là, comme c'est le cas là, avec l'équipe Cofidis, au final, on a une grande, grande liberté parce qu'on est chez nous, on n'a pas d'horaire de bureau et puis on organise notre emploi du temps comme on veut. ce qui veut dire qu'on peut rouler. Ça, c'est cool, ça me plaît. Mais voilà, les coureurs, quand ils s'entraînent, ben, ils vont s'entraîner la journée, puis on va les avoir au téléphone peut-être le soir, peut-être le matin. Donc voilà, on peut organiser notre journée comme on veut, et c'est ça qui est cool avec l'entrepreneuriat et qui se développe aussi beaucoup maintenant avec depuis le confinement, le télétravail. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte que c'est un modèle qu'on peut suivre, on peut laisser plus de liberté aux gens et voilà, pour la satisfaction, le bonheur, l'épanouissement personnel. Je trouve que c'est super important. Donc voilà, j'ai parlé plein de choses, mais voilà pourquoi j'entreprends, c'est clairement d'un point de vue liberté, si on peut dire ça, c'est de choisir ses contraintes et de pas avoir à suivre les contraintes justement qu'on nous impose, mais choisir comment on organise nos journées. Ça veut pas dire qu'on travaille pas, mais on travaille beaucoup, mais c'est nous qui choisissons ce qu'on fait et puis on travaille pour nous, donc c'est cool quoi.
Moi, je rêve de monter une entreprise asynchrone, donc une entreprise où les gens travaillent quand ils veulent, d'où ils veulent. Alors, pas comme ils veulent, parce qu'il y a quand même quelques contraintes et quelques règles à respecter. Mais d'avoir comme ça cet esprit d'entreprise, c'est quelque chose que je vais commencer à développer, tu vois, parce que voilà, je commence à vivre de mon activité. Et les souhaits de développement, c'est vers ça, quoi. C'est de permettre à d'autres de pouvoir justement vivre de cette même aventure de liberté, parce que si j'ai envie de travailler de 22h à minuit, je le fais et je le fais régulièrement, mais ça me laisse aussi la possibilité d'aller à 16h30 chercher mes enfants chez la nounou et à l'école, et ça, de pouvoir permettre à d'autres gens de pouvoir le faire sans avoir cette pression d'être le dirigeant tout en haut de la chaîne, si je puis dire, si on peut vraiment dire en haut. C'est quelque chose que je trouve ça cool, donc je me reconnais beaucoup dans ce que tu as décrit. Mathieu, on arrive déjà à plus d'une heure d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour peut-être clôturer notre échange?
On n'a pas parlé de l'apprentissage, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, tout ça. Moi, c'est des choses aussi qui me tiennent à cœur, des valeurs importantes pour moi. Après, c'est aussi dans ma psychologie, dans ma mentalité, dans mon état d'esprit, toujours chercher à apprendre, lire beaucoup, écouter des podcasts, même si c'est pas forcément d'un premier abord un sujet qui nous intéresse, mais voilà, écouter des podcasts, peu importe, maintenant j'en écoute quand même pas mal, soit sur l'entrepreneuriat, sur même d'autres sports, voilà, comme ton podcast que j'ai pu écouter un petit peu. On a toujours resté ouvert d'esprit, puis curieux. Je pense que c'est important dans la vie de d'être capable d'évoluer et puis d'apprendre de tout le monde. Je pense qu'on a tous à apprendre des autres, et voilà, on s'en rend compte quand on discute en final avec n'importe qui, tout le monde est intéressant, tout le monde a des expériences, tout le monde a ses propres apprentissages, et voilà, ça c'est quelque chose d'assez important pour moi. Et puis même pour le coup, moi j'aime aussi transmettre des connaissances, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et voilà, je rencontre au final plein de personnes qui vont être curieuses et qui ont soif d'apprendre, et c'est un régal, parce que on se tire vers le haut mutuellement. Moi qui ai envie de transmettre des connaissances, c'est un super moyen d'apprendre au final, parce que je vais notamment pour mes formations en ligne, où je vais passer des semaines à creuser un sujet comme un fou, et c'est quelque chose que je ferais pas, je pense, s'il y avait pas cette volonté derrière de transmission de connaissances, je creuserais pas le sujet à ce point là c'est pas possible, parce qu'il faut vraiment une grosse volonté. Il faut réussir à synthétiser ses idées, les remettre en ordre. Voilà, quand on écrit un article, il faut ça demande une grosse rigueur, parce que un article, s'il est mal construit, ça se voit tout de suite et ça intéressera personne. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui moi me permet d'apprendre, et tous ceux qui me suivent et qui vont essayer d'apprendre de ce que moi j'apprends et de ce que je leur transmets, ça va aussi beaucoup m'aider, parce que il y a de l'échange derrière. Je reçois beaucoup de questions, on peut me suivre notamment sur Instagram, sur LinkedIn, Mathieu Lambert, je fais un petit promo,
hashtag auto-promo.
Voilà, donc je réponds aux questions, j'essaye, des fois je prends un peu de temps, mais normalement je réponds à tout le monde, je réponds aux questions, et c'est super enrichissant voilà, pour tout le monde. Et voilà, je trouve que c'est cool de profiter comme ça, bah, de ceux qui souhaitent apprendre, moi qui souhaite transmettre, mais j'apprends aussi de ceux qui veulent apprendre. Enfin, voilà, tout le monde se tire vers le haut et c'est un cercle vertueux, quoi.
Bah, je te rejoins complètement et parfois on me dit sur le podcast mais comment tu fais pour trouver des invités, mais en fait des gens qui ont des histoires à raconter et à partager, il y en a mais des dizaines, des centaines, des milliers, et ça s'arrêterait jamais. Je pourrais faire un épisode par jour, ouais, sans problème si j'avais justement cette structure qui me permettrait derrière de déléguer certaines tâches. Ouais. ce serait vraiment mais faisable largement et passionnant en plus. Merci beaucoup Mathieu pour tous tes apprentissages et en tout cas moi j'ai appris, j'espère que vous aussi chers auditeurs, du moins ça donne envie d'en savoir un petit peu plus sur le vélo et puis bah, d'aller écouter ton podcast pour en apprendre encore plus sur d'autres sujets et puis à connaître les histoires aussi de certains cyclistes que tu as pu recevoir. Je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez aller suivre les aventures de Mathieu et puis lui poser aussi vos questions. Merci beaucoup pour ton temps et on se dit peut-être à bientôt sur la route, mais par contre il faudra m'attendre.
Avec plaisir François, merci pour l'invitation et voilà, c'était un plaisir d'échanger sur ton podcast. À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettrail.com. À bientôt.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.